Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission pour ce soir, mardi 25 octobre 2016, avec le journal suivi de commentaires. Et après, vous pouvez écouter notre programme L'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Pour la rubrique suivante, nous allons présenter le magazine culturel et ensuite apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le développement rapide de la population mondiale a l'impact sur la difficulté de la conservation de la biodiversité du monde, parce que le monde devient plus étroit. Comme par exemple, il est nécessaire d'anticiper la collaboration de recherche de scientifiques, surtout les pays asiatiques. Il a été déclaré par le chef adjoint pour les sciences de la vie de l'Institut indonésien des sciences, Madame Eni Sudarmonowati, lundi à Bogor, Jawa Barat.
The collaborative research and networking among ASEAN young scientists are important and need.
La coopération de recherche et de réseautage entre les jeunes scientifiques asiatiques sont importants pour la durabilité. Les futurs défis en matière de conservation de la biodiversité et de plus en plus difficiles avec l'augmentation de la population du monde, non seulement en Indonésie. D'autre part, la science et la technologie avancée continuent à chercher la source de questions scientifiques. La collaboration, l'amitié et la confiance liées à la diversité des espèces. Le professeur de l'Université de Kyoto, le Japon, Masaharu Motokawa, a déclaré que la communauté internationale doit établir une coopération concrète pour examiner la diversité des espèces animales, principalement et réalisée par les jeunes chercheurs afin qu'ils aient des expériences de diverses recherches dans différents pays. Le cinquième président de l'Indonésie, Mme Megawati Soekarnoputri, a ouvert une exposition des archives indonésiennes tenue au bureau de la délégation permanente indonésienne auprès de l'UNESCO, en collaboration avec des archives nationales de la République d'Indonésie au siège de l'UNESCO à Paris. Lors de l'exposition du 24 au 28 octobre, il y a 60 photographies de divers événements historiques indonésiens, tels que la conférence afro-asiatique de Bandung 1955, le mouvement des pays non alignés et le tsunami à Aceh en 2004. Le représentant permanent de l'Indonésie à l'UNESCO, M. Fauzi Suleiman, a déclaré que l'UNESCO était choisi comme lieu d'exposition car l'archive de la conférence afro-asiatique 1955 a été répertoriée comme un UNESCO mémoire du monde, tandis que les archives du mouvement des non-alignés et les archives de la catastrophe du tsunami à Aceh sont dans le processus de nomination. Comme cité par Kompas mardi, l'ambassadeur d'Indonésie à Paris, qui est aussi délégué permanent indonésien auprès de l'UNESCO, M. Hotmangaraja Panjaitan, a présenté trois archives comme un document historique qui ne peut pas être effacé de la mémoire du peuple de l'Indonésie. Cependant, Megawati Soekarnoputri, dans son discours, a déclaré l'importance de l'archive comme un enregistrement de l'histoire d'une nation. Megawati a souligné la nécessité pour le monde de choisir le chemin de la culture et de la voie de la paix, comme déclaré par les dirigeants de la nation qui dirigent le mouvement des pays non alignés. Le mouvement est un mouvement politique qui fait la diversité des races, de religions, de croyances, et non pas comme une source de conflit, mais comme une force. Le ministre coordinateur de la politique, la loi et la sécurité, M. Wiranto, a déclaré que le développement à la périphérie pouvait renforcer la défense frontalière en Indonésie. Il a déclaré lundi à Jakarta que le gouvernement du président Joko Widodo et vice-président Yusuf Kalla, qui développaient de la périphérie, était la bonne décision afin de renforcer la défense. La menace nationale peut devenir de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Par conséquent, la défense doit aussi être forte dans la région frontalière. Selon M. Wiranto, le soutien de la communauté est important pour réaliser le programme du gouvernement pour encourager l'accélération du développement de la nation. Les trois programmes du gouvernement sans le soutien de la communauté ne peuvent pas être réalisés. Il faut travailler ensemble pour que l'Indonésie puisse rivaliser sur la scène internationale. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie, M. Erlangga Hartanto, efforce la ville de Dumai, dans la province de Riau, inclus dans la zone économique de CPO, sur la base de l'accord de conseil des pays producteurs de pétrole de palme avec la Malaisie. M. Erlangga Hartanto, dans son discours à l'ouverture de l'expo de Riau à Pekanbaru, a déclaré que sa rencontre avec la Malaisie il y avait quelque temps sont convenus. L'Indonésie, notamment Dumai, inclut dans la zone économique de l'huile de palme brute. La création de la zone économique de CPO, selon Erlangga, pour augmenter la production de CPO et renforcer la compétitivité de la région productrice de l'huile de palme dans l'arène internationale. On a besoin de la synchronisation et de la synergie entre les deux pays parce que l'Indonésie et la Malaisie sont les plus grands joueurs de CPO dans le monde. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « Réaliser Nawacita dans la vie de la nation et du pays ». Nawacita est un terme qui est absorbé du sanskrit. Nava veut dire neuf et cita a le sens espoir. Dans le contexte de la politique en Indonésie, le terme se réfère à la vision et la mission du gouvernement de Joko Widodo et Yusuf Kalla. En principe, Nawacita continue la lutte et l'aspiration du père fondateur de la nation, Sukarno, donc l'idée était connue comme Trisakti, ayant le sens politiquement souverain, indépendant dans l'économie et avoir la personnalité dans la culture. L'agenda principal de Nawacita est de ramener l'État, de protéger toutes les personnes et assurer la sécurité de tous les citoyens. Deuxième, assurer que le gouvernement n'est pas absent de construisant d'une gouvernance propre, efficace, démocratique et fiable. Troisièmement, construire l'Indonésie de la périphérie pour renforcer ses zones et villages dans le cadre d'un État unitaire. Quatrième, refuser le pays faible par la réforme du système et de l'application des lois étant libre de corruption, digne et fiable. Quatrième, améliorer la qualité de la vie humaine indonésienne. Sixième, améliorer la productivité et la compétitivité des gens au marché international. Septième, réaliser l'indépendance économique en déplaçant le secteur stratégique de l'économie nationale. 8e, faire la révolution du caractère de la nation. Et enfin, renforcer la diversité et la restauration sociale d'Indonésie. Bien que progressif, généralement l'impact de Nawacita a commencé à se faire sentir par la société indonésienne. Mais après 2 ans du règne de Joko Widodo et Yusuf Kalla, il y en a un dans l'ordre du jour de Nawacita qui est encore largement discuté et même débattu par le public, à savoir le point numéro 8, faire la révolution du caractère de la nation, ou communément appelée une révolution mentale. La discussion chaude sur la révolution mentale était en cours depuis la campagne de l'élection présidentielle 2014 et même devenue un sujet tendance aux réseaux sociaux. Dans un article dans un quotidien national, Joko Widodo a expliqué que le sens d'une révolution mentale qu'il a initiée est de promouvoir le développement du caractère pour renforcer la personnalité et l'identité de la nation en conformité avec le mandat de Trisakti Soekarno. Afin d'atteindre cet objectif, selon Jokowi, le système éducatif doit viser et aider à établir l'identité de la nation indonésienne étant cultivée et civilisée, qui respecte les valeurs morales religieuses vivant en Indonésie. L'accès à l'éducation et aux services de la santé publique programmés, dirigés et ciblés par l'État pour aider à construire la personnalité sociale et culturelle de l'Indonésie. La révolution mentale devait être commencée par les détenteurs de pouvoir, parce que cette nation doit avoir un exemple de modèle de rôle, avoir un bon modèle de personnalité. Il y a de nombreux dirigeants politiques, notamment des détenteurs de position, donc leur comportement ne reflète pas la révolution mentale. Pourtant, Bung Karno a initié Trisakti étant la base de Nawacita, pas sans raison. Le but est pour construire cette nation pour être en mesure d'effectuer dans la communauté internationale comme une grande nation et respectée par les autres nations. L'Indonésie est devenue un pays développé et de l'autorité. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui. Le 25 octobre. Le 25 octobre 1945, les Alliés ont débarqué 6 000 hommes de troupes de la division 49 dirigée par le général de brigade Obertien Walter Sutter Malabi à Surabaya pour désarmer les troupes japonaises. Les troupes du général Malabi font partie des forces alliées néerlandaises. Les Indes orientales ou AFNEL. Les forces alliées envoyées à l'Indonésie après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour désarmer les troupes japonaises, la libération des prisonniers de guerre japonaises et de restaurer l'Indonésie de nouveau dans les Indes sous la domination hollandaise et sous administration de Nika ou administration civile de Pays-Bas. Malabi a dirigé ses troupes d'entrée à Surabaya le 25 octobre 1945 à désarmer les troupes japonaises en conformité avec le contenu de l'accord de Yalta. Cet objectif est atteint avec la résistance des troupes indonésiennes parce que AFNI les a demandé de transmettre des armes que l'avait pris la partie indonésienne à l'avance du Japon. Il y avait un nombre de conflits armés entre les deux forces. L'un d'entre eux est eu lieu le 30 octobre 1945 près de Jembatan Merah Surabaya. Le combat a tué le général Malabi. Sa mort a provoqué la publication de l'ultimatum britannique et l'explosion de la bataille de 10 novembre 1945, commémorée comme le jour d'héros. Le 25 octobre 1962, Nelson Mandela a été condamné à 5 ans de prison. Nelson Mandela est une figure assez célèbre dans le monde entier. Il est un combattant de la liberté à travers des activités anti-apartheid et il est devenu plus tard président de l'Afrique du Sud. Mandela a lutté fermement contre l'apartheid. En raison des activités anti-apartheid, plusieurs fois, il était puni. Le 5 août 1962, Mandela a été arrêté et emprisonné dans le fort Johannesburg. Plus tard, le 25 octobre 1962, il a été condamné à 5 ans de prison et le 10 juin 1964, lui et un groupe d'autres militants ont été condamnés à l'emprisonnement à vie. En février 1990, Nelson Mandela a été libéré de prison. En 1993, ensemble avec le président de Klerk, il a reçu le prix Nobel de la paix. Le 25 octobre 2010, le tremblement de terre aux îles de Mentawai. Le tremblement de terre aux îles de Mentawai a eu lieu au large de la côte de Sumatra, mesurant 7,7 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a entraîné le tsunami aussi élevé que 3 jusqu'à 10 mètres et a causé 77 villages détruits. Le séisme et le tsunami qui a frappé Mentawai ont causé des dommages estimés à 525 milliards de rupiahs. Les catastrophes engendrent également 509 morts, 59 disparus et 173 ont été grièvement blessés. Le tsunami a également provoqué 15 353 habitants de Mentawai forcés d'évacuer. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée 4 membres d'équipage indonésien qui ont été pris en otage en Somalie ont été libérés. 4 citoyens indonésiens et 22 autres otages asiatiques qui ont été pris en otage par des pirates somaliens pendant près de 5 ans ont finalement été libérés. La libération de 4 citoyens indonésiens a été menée samedi 22 octobre 2016. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré à la presse à Jakarta lundi qu'au dimanche 23 octobre 2016, les 4 citoyens indonésiens et 22 autres otages asiatiques avaient atterri à l'aéroport de Nairobi. Actuellement, les 4 indonésiens ont été à Nairobi au Kenya et seront bientôt rapatriés en Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie à Nairobi et l'équipe du ministère des Affaires étrangères, dirigée par le directeur de la protection des citoyens indonésiens, a apporté les 4 otages Cette équipe a été à Nairobi un jour avant l'arrivée des otages. La condition des otages sont généralement en bonne santé. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré qu'il y avait 29 membres d'équipage de navire Naham 3 qui ont été détournés par des pirates somaliens dans les eaux autour des Seychelles le 26 mars 2012. Le capitaine du navire est mort quand le détournement a eu lieu. Deux autres otages ont été décédés en 2014. Ceux qui ont été pris en otage en Somalie étaient des Philippines, l'Indonésie, le Cambodge, Taïwan, la Chine et le Vietnam. Selon Mme Retno Marsudi, lundi 24 octobre, les contrôles sanitaires ont été effectués sur les otages. Ils doivent passer quelques jours de récupération avant d'être envoyés à la maison en Indonésie. Selon Mme Retno Marsudi, depuis janvier 2015, le président Joko Widodo a ordonné au ministère des Affaires étrangères et de l'Agence nationale de renseignement d'intensifier les efforts pour libérer les citoyens indonésiens en Somalie. La libération a été faite par un processus très long. Bien sûr, la sécurité des otages est une priorité, a déclaré la ministre Retno Marsudi. Selon elle, les négociations avec des pays de pirates ont été faites intensivement. Le gouvernement indonésien a également coordonné et coopéré avec les organisations non gouvernementales, les organisations internationales et les Nations unies. Selon Mme Retno Marsudi, le ministère des Affaires étrangères continue à communiquer avec la famille des otages régulièrement, de sorte que les familles des otages à connaître les efforts du gouvernement, y compris les difficultés rencontrées dans le processus de libération. Elle a ajouté, le gouvernement indonésien a remercié pour la coopération et le soutien de toutes les parties, à la fois dans le pays, surtout le chef de l'agence de renseignement d'État, ainsi que ceux à l'étranger impliquant plusieurs parties dans une tentative de libérer les otages, y compris les otages indonésiens. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le développement rapide de la population mondiale a l'impact sur la difficulté de la conservation de la biodiversité du monde, parce que le monde devient plus étroit, comme par exemple il est nécessaire d'anticiper la collaboration de recherche de scientifiques, surtout les pays asiatiques. Il a été déclaré par le chef adjoint pour les sciences de la vie de l'Institut indonésien des sciences, Madame Eni Sudarmonowati, lundi à Bogor, Jawa Barat.
The collaborative research and networking among ASEAN young scientists are important and need.
La coopération de recherche et de réseautage entre les jeunes scientifiques asiatiques sont importants pour la durabilité. Les futurs défis en matière de conservation de la biodiversité sont de plus en plus difficiles avec l'augmentation de la population du monde, non seulement en Indonésie. D'autre part, la science et la technologie avancée continuent à chercher la source de questions scientifiques. La collaboration, l'amitié et la confiance liées à la diversité des espèces. Le professeur de l'Université de Kyoto, le Japon, Masaharu Motokawa, a déclaré que la communauté internationale doit établir une coopération concrète pour examiner la diversité des espèces animales, principalement et réalisée par les jeunes chercheurs afin qu'ils aient des expériences de diverses recherches dans différents pays. Le cinquième président de l'Indonésie, Mme Megawati Sukarnoputri, a ouvert une exposition des archives indonésiens tenue au bureau de la délégation permanente indonésienne auprès de l'UNESCO en collaboration avec des archives nationales de la République d'Indonésie au siège de l'UNESCO à Paris. Lors de l'exposition du 24 au 28 octobre, Il y a 60 photographies de divers événements historiques indonésiens, tels que la conférence afro-asiatique de Bandung 1955, le mouvement des pays non alignés et le tsunami à Aceh en 2004. Le représentant permanent de l'Indonésie à l'UNESCO, M. Fauzi Sulaiman, a déclaré que l'UNESCO était choisi comme lieu d'exposition car l'archive de la conférence afro-asiatique 1955 a été répertoriée comme un UNESCO mémoire du monde, tandis que les archives du mouvement des non-alignés et les archives de la catastrophe du tsunami à Aceh sont dans le processus de nomination. Comme cité par Compass mardi, l'ambassadeur d'Indonésie à Paris, qui est aussi délégué permanent indonésien auprès de l'UNESCO, M. Hotmangaraja Panjaitan a présenté trois archives comme un document historique qui ne peut pas être effacé de la mémoire du peuple de l'Indonésie. Cependant, Megawati Soekarnoputri, dans son discours, a déclaré l'importance de l'archive comme un enregistrement de l'histoire d'une nation. Megawati a souligné la nécessité pour le monde de choisir le chemin de la culture et de la voie de la paix, comme déclaré par les dirigeants de la nation qui dirigent le mouvement des pays non alignés. Le mouvement est un mouvement politique qui fait la diversité de races, de religions, de croyances, et non pas comme une source de conflit, mais comme une force. Le ministre coordinateur de la politique, la loi et la sécurité, M. Wiranto, a déclaré que le développement à la périphérie pouvait renforcer la défense frontalière en Indonésie. Il a déclaré lundi à Jakarta que le gouvernement du président Joko Widodo et vice-président Yusuf Kalla, qui développaient de la périphérie, était la bonne décision afin de renforcer la défense. La menace nationale peut devenir de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Par conséquent, la défense doit aussi être forte dans la région frontalière. Selon M. Wiranto, le soutien de la communauté est important pour réaliser le programme du gouvernement pour encourager l'accélération du développement de la nation. Les trois programmes du gouvernement sans le soutien de la communauté ne peuvent pas être réalisés. Il faut travailler ensemble pour que l'Indonésie puisse rivaliser sur la scène internationale. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie, M. Erlangga Hartanto, efforce la ville de Dumai, dans la province de Riau, inclus dans la zone économique de CPO, sur la base de l'accord de conseil des pays producteurs de pétrole de palme avec la Malaisie. M. Erlangga Hartanto, dans son discours à l'ouverture de l'expo de Riau à Pekanbaru, a déclaré que sa rencontre avec la Malaisie il y avait quelque temps sont convenus, l'Indonésie, notamment Dumai, inclut dans la zone économique de l'huile de palme brute. La création de la zone économique de CPO, selon Erlangga, pour augmenter la production de CPO et renforcer la compétitivité de la région productrice de l'huile de palme dans l'arène internationale. On a besoin de la synchronisation et de la synergie entre les deux pays parce que l'Indonésie et la Malaisie sont les plus grands joueurs de CPO dans le monde. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel au Pesona Indonesia. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à faire une aventure culinaire en Papouasie. Donc, restez toujours avec nous à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Outre par OnCourt, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voi.co.id. Le riz est l'alimentation principale de l'Indonésie, notamment les Indonésiens habitant à l'ouest du pays. Pour ceux à l'est, comme en Papouasie et au Maluku, il y a une autre alimentation principale. Ils mangent généralement du sagu. Sagu est une sorte de farine qui vient du bras d'arbre rumbia, ou on l'appelle aussi l'arbre de sagu. La texture est élastique après avoir été cuite. Les gens de Papouasie généralement font du porridge de sagu, ou autrement dit papeda. Autre que le papeda, ils font aussi du sinole. Sinole est aussi une alimentation principale de Papouasie. Il est brun et la texture est rugueuse. Même s'il ne semble pas intéressant à manger, mais le goût est vraiment intéressant. Sinole est sucré et délicieux. Il goûte comme le riz mais plus rugueux. La texture deviendra douce quand vous en mangez. Vraiment unique et bon. Ce n'est pas difficile pour faire du sinole. D'abord, le sagu séché est tamisé jusqu'à ce qu'il devienne fariné. Après, on cuit de la noix de coco râpée, puis on mélange le sagu fariné avec du sucre et du sel. Et on cuit tout cela avec de la noix de coco râpée jusqu'à ce qu'il devienne brun. Voilà, le sinole est prêt à manger. Sinole est complet quand vous en mangez avec de la soupe jaune de poisson. C'est normal pour les Papouasies de manger cette combinaison. La soupe jaune de poisson est un plat de poisson cuit avec des épices, notamment le curcuma, qui rend la soupe jaune. D'habitude, les poissons sont le thon, le maquereau et la bonite. Outre que la soupe jaune, d'habitude, les vendeurs de sinole combinent le plat avec du poulet salé. Le prix d'un plat de sinole est assez bon marché. Il vaut doit seulement 20 000 jusqu'à 30 000 rupiah. Chers amis, voilà cette édition de magazine culturel au Pasona Indonesia pour aujourd'hui. Donc, le sujet est sinole. Merci à tous et à demain.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide à parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est di pasar swalayan, ou en langue française veut dire au supermarché. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions de la langue indonésienne reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Pasar swalayan, pasar swalayan, en français. Supermarché. Pulang, pulang En français, retour. Berbelanja, berbelanja. En français, faire des courses. Bersih, bersih. En français, propre. Daging ayam, en français, poulet. Daging sapi, en français, viande. Telur, telur, en français, œuf. Sayur, sayur, en français, légumes. Buah, buah, en français, fruits. Kue-kue, kue-kue, en français, gâteau. Makanan kaleng, en français, nourriture en boîte. Makanan siap saji, en français, plat cuisiné. Makanan beku, en français, aliment surgelé. Nyaman, nyaman, en français, confortable. Aman, aman, en français, sûr. Trolley, trolley, en français, chariot. Membayar, membayar, en français, payer. Kartu kredit, en français, carte de crédit. Uang kontan, en français, argent. Kasir, kasir, en français, caissier. Kantong plastik, en français, sac en plastique. Dorong, dorong, en français, pousser. Parkir mobil, en français, parking. Récréasi, récréasi, en français, récréation. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation et un sous-titre di pasar swalayan, ou en langue française veut dire au supermarché. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Cette conversation est entre Susan et Tuti dans le stationnement. Sebelum pulang, saya mau ke pasar swalayan. Sebelum pulang, saya mau ke pasar swalayan. En français, avant de rentrer à la maison, je vais aller au supermarché. Apakah kamu mau ikut? Apakah kamu mau ikut? En français, voulez-vous venir? Mengapa kamu lebih suka berbelanja di pasar swalayan? Mengapa kamu lebih suka berbelanja di pasar swalayan? En français, pourquoi préférez-vous faire des courses au supermarché? Karena selain lebih bersih, barang-barang di pasar swalayan juga lebih lengkap. Karena selain lebih bersih, barang-barang di pasar swalayan juga lebih lengkap. En français, outre de plus propre, les choses au supermarché sont plus complètes. Di sana, saya bisa membeli daging ayam. En français, là-bas, je peux acheter du poulet. Daging sapi, en français, de la viande. Telur, sayur, en français, des œufs, des légumes. Buah, buah, en français, des fruits. Kue-kue, kue-kue, en français, les gâteaux. Makanan kaleng, en français, la nourriture en boîte, makanan siap saji, dan juga makanan beku. En français, les plats cuisinés et aussi les aliments surgelés. Ya, belanja di pasar swalayan lebih nyaman dan aman. Ya, belanja di pasar swalayan lebih nyaman dan aman. En français, oui, faire des courses au supermarché est plus confortable et sûr. Karena selain memakai troli, kita juga bisa membayar dengan kartu kredit. Karena selain memakai troli, kita juga bisa membayar dengan kartu kredit. En français, parce que d'utiliser le chariot, nous pouvons aussi payer par carte de crédit. Betul, kita tidak perlu membawa uang kontan. Betul, kita tidak perlu membawa uang kontan. En français, d'accord, nous ne devons pas prendre de l'argent. Setelah membayar di kasir, belanjaan semua dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah membayar di kasir, belanjaan semua dimasukkan ke dalam kantong plastik. En français, après avoir payé à la caissière, les courses sont toutes mises dans le sac en plastique. Kemudian dimasukkan ke troli. Kemudian dimasukkan ke troli. En français, ensuite, ils sont mis dans le chariot. Kita dorong ke tempat parkir mobil. Kita dorong ke tempat parkir mobil. En français, nous le poussons au parking. Sungguh nyaman. Sungguh nyaman. En français, vraiment confortable. Ayo kita berangkat ke pasar swalayan. Ayo kita berangkat ke pasar swalayan. En français, allons au supermarché. Kita belanja sambil rekreasi. Kita belanja sambil rekreasi. En français, nous dépensons tout en faisant la récréation. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que ce programme soit utile pour vous qui voulez connaître de plus la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain!
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit pop et dangdut. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse de dangdut, Yulia Chitra. Voici sa première chanson intitulée « Derrière la tente ». Bonne écoute. Saat ku melihat Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Derrière la tente » chantée par Julia Chitra. La chanson raconte la trahison de l'amour. Conformément à l'histoire de cette chanson, la musique créée par Giorgia Erge est si triste. Sa musique apporte la musique dans Dutpour avec des nuances ethniques dominantes qui est convenable avec la voix mélancolique de Julia. L'ajout des nuances musicales ethniques dominantes renforce l'histoire de la chanson derrière la tente, parce que l'histoire de la chanson a l'arrière-fond dans l'ouest de Sumatra. Cette chanson est l'une des 10 chansons dans son premier album en solo, après que Julia Chitra ait rejoint le groupe de dangdut Manis Manja Group. L'album, produit en 1994, était le résultat de sa collaboration avec les arrangeurs célèbres Mouhtar B, Giorgia Erge et Ali Ababil, ainsi que les compositeurs célèbres de dangdut tels que Endang Kurnia et B Makayok. Cet album était succès sur le marché. Grâce à cette chanson, la carrière de chanteuse dont le vrai nom est Yulitin était meilleure. Non seulement le succès avec son premier album, les albums suivants de Julia Chitra, comme « Ta fête, ma douleur » et « Broder le tissu Brésil » ont été aussi bien reçus par les amateurs de musique de dangdut dans le pays. Bon, chers auditeurs, avant de bien connaître Julia Chitra, voici sa chanson intitulée « Ta fête, ma douleur ». Bonne écoute. Thank you. chers auditeurs, une chanteuse née en ville de Héro a commencé sa carrière à la musique de dangdut de l'Indonésie, se joignant à un groupe vocal appelé Manja Manis Group. Connue en tant que membre de Manis Manja Group, Julia Chitra n'est pas satisfaite. Elle devient une chanteuse soliste et a produit plusieurs albums qui ont été bien accueillis par les amateurs de musique dangdut. Après s'être mariée et être retirée de la scène musicale de dangdut en 2007, Julia Chitra puis a publié un album en duo avec sa sœur Vita Jelly. Leur duo connu sous le nom de Chitra. Julia et Vita Jelly ont sorti un album intitulé 15 Top Hits. Dans cet album, il y avait 15 chansons. Deux d'entre elles sont les nouvelles chansons intitulées « Sachez le soleil » et « Mon amour illimité du temps ». La chanson « Mon amour illimité du temps » est le premier hit de Chitra dans la carrière à l'industrie musicale de dangdut. Cette chanson, composée par Dedy Dores, avait chanté par Annie Carrera. Cette chanson apporte la musique de dangdut moderne. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Julia Chitra intitulées « Mon amour illimité de temps » et « Broder le tissu fragile ». Bonne écoute et au revoir.
Bicara. Mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu.
Juga tujuh lawa dari Indonesia at Jakarta. Syarjami, merci de la fidèle à notre antenne. Et vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia. Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.